C'est l'histoire de quatre amis qui sont sur la plage et ils trouvent une lampe magique. Et en la frottant, vous savez ce qui se passe? Il y a un génie qui sort. Et le génie leur dit: Que voulez-vous que je fasse pour vous? Je vais accomplir un vœu pour chacun d'entre vous. Le premier dit, je veux être riche et ne plus jamais manquer de rien. Et qu'est-ce qui se passe? Pouf, il disparaît. Et où est-ce qu'il réapparaît? Il réapparaît à Wall Street, maître de la finance internationale, hyper riche, a priori ne manquera jamais de rien. Le deuxième dit, moi, je veux être beau et avoir toutes les femmes du monde à mes pieds. Pof, disparaît. Et il réapparaît à Hollywood dans la peau de Brad Pitt. Et effectivement, il a les plus belles femmes du monde à ses pieds. Le troisième dit, moi, je veux être puissant, je veux être vénéré, je veux être adulé partout où je vais, par tout le monde. Pof, il disparaît. Et il réapparaît à Turin, dans la peau du joueur de foot Cristiano Ronaldo qui joue à la Juventus. Et à chaque fois qu'il entre dans le stade, tout le monde scande son nom. Ronaldo, enfin voilà. C'est la gloire pour lui. Et le dernier ami, vous savez ce qu'il pense? Il pense qu'il est bien seul maintenant. Génie, s'il te plaît, renvoie-moi mes copains, fais que ça redevienne comme avant. Et pof, les trois copains réapparaissent. Quel boulet ce quatrième ami, vraiment. Les trois autres, ils avaient eu tout ce qu'ils voulaient, quoi. Vous imaginez un peu? L'argent, les femmes, la gloire. Et le quatrième arrive, et ça y est, tout se termine. Si on sent toute l'ironie de cette blague, si cette blague fonctionne, c'est parce que, en fait, ce désir de richesse, ce désir d'amour et de gloire, on l'a tous au fond du cœur. Et il ne demande qu'à une seule chose, il ne demande qu'une seule chose, ce désir, c'est de réapparaître, de réémerger à la moindre occasion. Aujourd'hui, comme le génie de la lampe d'Aladin, Jésus te demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Et la réponse que tu donneras à cette question sera révélatrice de tes désirs les plus profonds. Au verset 36, c'est la question que Jésus a posée à Jacques et Jean. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Et au verset 51, c'est la question qu'il a posée à Bartimée, l'aveugle. Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est la question du jour. Ce matin, tu es peut-être nouveau, tu ne fais pas partie des initiés et tu te dis qu'il n'y a aucune chance que Jésus fasse quelque chose pour toi. Mais les apparences sont trompeuses parce que ça ne vous a pas échappé que les proches de Jésus, Jacques et Jean, n'obtiendront pas ce qu'ils ont demandé, alors que Bartimée, l'inconnu, obtiendra ce qu'il a demandé. Exemple à l'opposé l'un de l'autre. Échec pour les amis, réussite pour l'inconnu. Allez, c'est parti. Ce que tu veux que Jésus fasse pour toi. On va se pencher d'abord sur les disciples, ce qu'ils veulent que Jésus fasse pour eux. Eh bien, c'est très simple, ils veulent une position de gloire. Ils veulent, on peut le résumer comme ça, oups, ils veulent être vus, tout simplement. Ils veulent être à droite et à gauche de Jésus dans sa gloire. Versets 35 à 40 nous racontent leur demande, et ça vaut le coup de s'arrêter un peu pour essayer de décrypter cette demande des disciples, parce que vous allez voir que leur comportement est assez intéressant. Jacques et Jean, pour vous rappeler qui ils sont, ce sont deux des plus proches disciples de Jésus. Au chapitre 9 de l'évangile de Marc, ils sont montés sur la montagne avec Pierre en plus, avec Jésus et Pierre. Et Pierre, Jacques et Jean ont assisté à la transfiguration de Jésus. Jésus dont les vêtements, dont le corps a resplendi. Jésus qui était entouré d'Élie et de Moïse, les deux prophètes. Jésus dans toute sa gloire. Jacques et Jean ont assisté à ce moment privilégié. Et on se dit, mais après avoir assisté à un tel moment, mais ils ont appris quelque chose. Ils vont pouvoir réagir de façon exemplaire. Et là, on assiste au contraire. On se rend compte qu'en fait, Jacques et Jean sont les champions de la magouille dans notre passage. Vraiment les champions de la magouille. D'abord, vous avez peut-être remarqué comment ils tentent de manipuler Jésus. Regardez, écoutez le verset 35. Premier point, manipulation. Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'utiliser des phrases comme ça. En fait, ils ne disent pas ce qu'ils veulent, mais ils veulent que Jésus dise oui d'abord. Ça vous rappelle peut-être des paroles d'enfant. Vous savez, quand « Maman, j'ai envie de te demander un truc, mais je sais que tu vas dire non, alors dis-moi oui d'abord, comme ça je te demanderai après. » Ben, c'est exactement ce que Jésus encaisse ici de la part de Jacques et Jean. Jacques et Jean, ils sont prêts à manipuler Jésus pour obtenir ce qu'ils veulent. Et puis regardez un peu le vocabulaire qu'ils emploient. Je vous relis le verset 36. « Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, lorsque tu seras dans ta gloire. » Alors ils ont compris quelque chose. Ils ont compris que Jésus était puissant et avait toute l'autorité, qu'il allait entrer en gloire. Ça, c'est plutôt positif. Mais leur demande est aussi révélatrice d'une écoute sélective. Écoute sélective parce que juste avant, Jésus a parlé de ce qui allait lui arriver. Et il a commencé comme ça. « Nous montons à Jérusalem », verset 32. « Et le Fils de l'homme... » Et là, les disciples s'arrêtent d'écouter. Jacques et Jean ont entendu quoi ? Ils ont entendu le Fils de l'homme. Et ils sont calés en théologie, Jacques et Jean. Ils ont lu leur Bible. Ils savent que le Fils de l'homme, c'est quelqu'un d'hyper important dans le prophète Daniel. Ils savent que le Fils de l'homme, c'est un homme à qui va être donné la gloire, la souveraineté, la royauté, pour toujours. Alors dès qu'ils entendent le Fils de l'homme, ils s'arrêtent d'écouter. Ils disent « Oh là là, mon gars, il ne faut pas qu'on rate cette occasion. » Écoute sélective. Ils n'entendent pas la suite. Et pourtant, ce que Jésus dit dans la suite, c'est quoi ? Qui va souffrir ? Qui va mourir ? Écoute sélective. La demande de Jacques et Jean, bien entendu, ça, elle révèle leur égocentrisme à Jacques et Jean, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est tellement évident. Ils recherchent un profit personnel. Ils veulent la gloire, coûte que coûte. Ils veulent s'élever, ils veulent tirer la couverture à eux, ils veulent monter, même en écrasant les autres s'il le faut. Et enfin, la demande de Jacques et Jean, elle relève aussi de la compétition déloyale. Alors, je m'explique. D'habitude, Jacques et Jean, ils sont toujours en trio avec Pierre. C'est les trois privilégiés. À chaque fois qu'il se passe quelque chose d'un peu exceptionnel, Pierre, Jacques et Jean sont là. Mais là, le problème, c'est que à droite et à gauche de Jésus, il n'y a que deux places. Alors, les frérots, qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'entendent, on va en évincer un. Et Pierre, il passe à la trappe. C'est comme ça, compétition déloyale. Et verset 40, on en arrive à la réponse de Jésus. Vous savez que leur demande est rejetée. C'est un échec, un mauvais exemple. Mais on y est habitué à ce mauvais exemple-là depuis qu'on lit l'évangile de Marc. Au chapitre 9, on avait vu les disciples qui se disputaient déjà pour savoir qui allait dominer. Sur le chemin qui montait à Jérusalem, ils se demandaient « Mais qui est le plus grand ?» Vous imaginez ? Dès qu'ils ont un moment pour penser, ils pensent à « Qui est le plus grand ?» C'est un véritable esclavage, en fait, dans lequel les disciples sont tombés. La recherche de la gloire, la recherche du pouvoir, la recherche de la meilleure place. Cette soif de gloire, cette soif d'être vu, d'être apprécié comme le meilleur, l'envie de dominer les autres, c'est vraiment ancré dans le cœur de l'homme. Et ça ne s'arrête jamais. Et sur ces aspects-là, je peux vous garantir que les Français, on n'a strictement rien à envier à Jacques et Jean. Les Français, on est nous aussi tristement célèbres pour un certain nombre de magouilles. Gagner plus ou être vu. Les Français, on dit qu'on est expert en fraude fiscale. Bon, il y a les Italiens qui sont un peu devant nous aussi et les Grecs qui sont pas loin. Mais il paraît que l'année dernière, il manquait plus de 100 milliards d'euros dans les caisses de l'État. 100 milliards d'euros évadés en fraude fiscale. Alors je crois que Dalila n'est pas là aujourd'hui, mais Dalila qui travaille aux impôts, qui traque les entreprises qui cachent de l'argent, elle pourrait nous en dire beaucoup plus sur tout ce qui part et comment les entreprises s'y prennent pour cacher de l'argent. En magouille et compagnie, cette fois-ci qui concerne peut-être un peu plus les jeunes, il y a le piratage de logiciels, le téléchargement illégal de musique et de vidéos, de films sur Internet. C'est devenu tellement banal qu'on a oublié que c'était du vol, tout simplement. Le vol d'œuvres qui ont été créées par quelqu'un. Si ce n'est pas sur une plateforme qui a payé des droits aux auteurs, eh bien, c'est juste illégal de regarder en streaming un film. Mes parents, qui, il y a quelques années, ont essayé de louer leur maison à des gens, ils l'ont fait. Et ça a duré une semaine, cette location. Et quelques mois plus tard, mon père a reçu un papier de la loi Hadopi. Vous connaissez la haute autorité pour le droit Hadopi, des œuvres, de la protection des œuvres sur Internet. En fait, il semblerait que les locataires d'une semaine aient passé leur semaine sur des plateformes de pair à pair, de peer-to-peer, à télécharger ou je sais pas, ou à mettre à disposition des œuvres qu'ils n'avaient pas le droit de mettre à disposition. Et donc mon père, qui ne connaît rien d'informatique, il se reçoit ça dans sa boîte aux lettres. Croyez-moi qu'il n'a plus jamais reloué sa maison après. Mais nous, les chrétiens, nous, bien entendu, on n'est pas comme ça, nous. On n'est pas comme ça. J'ai peur que nous leur ressemblions. Et ce que je vous propose, c'est un petit exercice juste sur les quatre, la manipulation, écoute sélective, égocentrisme et compétition déloyale. Manipulation. Est-ce que vous vous souvenez comment Luther est devenu moine? Il se baladait dans la campagne et il y a eu un grand orage. Et il y a la foudre qui tombait pas loin de lui, au point qu'il a eu peur pour sa vie et il s'est mis à prier. « Seigneur, si tu me délivres de cet orage, je m'engagerai pour toi. » Il n'est pas mort durant cet orage. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est devenu moine. Il a marchandé avec l'Éternel, mais il s'est engagé. Il a tenu l'engagement, la promesse qu'il avait prise devant le Seigneur. Est-ce que ça vous est jamais arrivé de prendre de tels engagements devant le Seigneur? Seigneur, si tu fais ça pour moi, alors je ferai ça pour toi. Et question, est-ce que vous avez tenu votre engagement derrière? Ou est-ce que vous avez juste cherché à manipuler Dieu, à marchander avec lui, et après à ne pas respecter l'engagement que vous aviez pris derrière? J'en parle en connaissance de cause, ça m'est arrivé malheureusement trop de fois d'avoir pris des engagements que je n'ai pas respectés après. Donc je me sens concerné quand il est question de manipulation de Dieu. Écoute sélective. J'ai remarqué, en discutant avec les uns et les autres, et puis pour moi c'est pareil, j'ai remarqué qu'on a tendance à retenir vachement mieux les versets qui parlent d'amour de Dieu pour nous, de grâce qu'il nous fait, mais quand il s'agit de retenir les versets qui parlent d'engagement radical, sur l'argent, sur la sexualité, sur l'obligation de pardon pour nous qui avons été pardonnés, on est nettement moins fort. Et je voudrais vous donner un exemple. Vous connaissez peut-être l'humoriste Alain Audercet. Il en a écrit une super là-dessus. Angéline, je vais te bénir. Alléluia, le Seigneur m'a parlé, il veut me bénir, gloire à son nom. Mais d'abord, va faire la paix avec ta voisine. Tiens, je n'entends plus rien. Écoute sélective. Nous avons tendance à trop souvent apprendre ce qui nous convient, ce que nous voulons dans la Bible. Égocentrisme. Qui d'entre nous ne s'est jamais comparé à un autre chrétien avec une petite arrière-pensée de calculer la hauteur de sa place dans le royaume de Dieu? Est-ce que je suis meilleur que lui? Est-ce que je suis moins bon que lui? Est-ce que ça vous est jamais arrivé? Compétition déloyale. C'est triste, mais dans les églises aussi, on évince les autres de temps en temps. Ça arrive. Des dysfonctionnements d'église, ça arrive. Et les enjeux de pouvoir ne sont pas étrangers au milieu des églises. Voilà pour la demande de Jacques et Jean qui veulent être vus, qui veulent avoir la gloire. Qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse pour toi? Marc nous donne un contre-exemple en fait, qui est surprenant, avec cet aveugle qui s'appelle Bartimée, versets 46 à 52. Et Bartimée, lui, ne demande pas à être vu, il demande quoi? À voir. C'est l'opposé. Mais vraiment, si Marc nous livre ces deux passages de la vie de Jésus côte à côte, c'est parce qu'il a ça à nous dire. Qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse pour toi? Est-ce que tu veux être vu ou tu veux voir Jésus tel qu'il est et l'apprécier pour qui il est? Regardez le génie de l'évangéliste Marc qui nous rapporte ces passages et nous permet de mettre ça ensemble, côte à côte, dans le texte. Ce Bartimée, il est vraiment en opposition avec les disciples. Il traîne au bord de la route, c'est un mendiant. un pauvre type au sens littéral. Ce n'est pas un initié comme Jacques et Jean. Il n'a pas vu de choses glorieuses comme Jacques et Jean. Et on sait pourquoi, parce qu'il n'y voit rien, tout simplement. Mais Jésus loue sa foi. Je vous relis le verset 52. « Parce que tu as cru en moi, tu es guéri. » On pourrait même traduire, certains le font, mais « ta foi t'a sauvé ». On hésite entre « ta foi t'a sauvé » ou « tu es guéri ». Mais le verbe veut dire les deux. Les disciples étaient intéressés par leur profit personnel, mais Bartimée, lui, il utilise ce qu'il reçoit pour faire quoi ? Pour suivre Jésus. Immédiatement, il est guéri, qu'est-ce qu'il fait ? Il suit Jésus. Il n'est pas là pour sa propre gloire, Bartimée. Et son nom va rester célèbre. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des guérisons dans l'évangile de Marc. En revanche, c'est la première fois qu'on a le nom de la personne qui est guérie. Pourquoi ? Très certainement parce que Marc écrit à des gens qui le connaissent. Et il leur dit, et Marc leur dit, mais vous voyez ce gars-là, souvenez-vous Bartimée, le fils de Timée, le gars qui était mendiant et aveugle sur la route de Jéricho, là, entre Jérusalem et Jéricho. Souvenez-vous de lui. Pourquoi ? Parce qu'il avait une foi exemplaire. Il ne cherchait pas sa propre gloire, Bartimée. Alors depuis tout à l'heure, on se demande ce qu'on voudrait que Jésus fasse pour nous. Et maintenant, on va comparer avec ce que Jésus veut effectivement faire pour nous. On a ça aussi dans le récit du jour. Ce que Jésus veut faire pour toi. Ça commence au verset 38 avec deux images, ce que Jésus veut faire pour nous. Les images sont les suivantes, la coupe et le baptême. Jésus parle de coupe à boire et de baptême à recevoir. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou passer par le baptême que j'aurai à subir ? C'est la question qu'il pose à Jacques et Jean. Et avec ces deux images, avec ces deux mots, Jésus résume sa raison d'être. La coupe et le baptême, si vous êtes familier avec l'Ancien Testament, vous savez que ça renvoie vers le jugement. C'est la coupe du jugement de Dieu. C'est la coupe de la colère de Dieu qui va se déverser sur les hommes qui ont mérité la colère de Dieu par leurs mauvaises pensées, leurs mauvais actes, leurs mauvaises paroles. Et nous savons que cette colère, cette coupe de la colère de Dieu, elle s'est déversée sur Jésus. Première image, la coupe. Et le baptême, ça fait référence au baptême que Jean pratiquait au début de l'évangile de Marc. Vous vous souvenez ? Les gens venaient de partout, ils accouraient auprès de Jean, dit le Baptiste, pour être baptisés. Et en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, ils reconnaissaient publiquement leurs péchés. Un baptême pour obtenir le pardon des fautes. Et Jésus, lui, qui n'avait jamais commis le moindre péché, il est quand même allé se faire baptiser par Jean. Mais il n'avait rien à déposer dans l'eau. Lui, il a fait le contraire. En étant baptisé, il a pris sur lui les péchés que les hommes et les femmes avaient déposés dans l'eau. Donc là aussi, le baptême, quand Jésus parle de baptême à subir, il parle du baptême parce qu'il a pris les fautes des Juifs et de l'humanité sur lui. Et il va les porter à la croix pour être puni à la place de l'humanité. Donc, avec de tels propos qui annoncent la mort de Jésus, on pourrait croire que Jacques et Jean vont se calmer un peu là, dans leur magouille, dans leur fanfaronnade. Et Jésus qui leur dit, mais pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? Pouvez-vous passer par le baptême que j'aurai à subir ? Mais c'est vraiment des teigneux, Jacques et Jean, quoi. Réponse de Jacques et Jean, oui, nous pouvons la boire, la coupe. Mais ils sont infernaux, ces deux types, quoi. Est-ce qu'ils ont vraiment compris de quoi il s'agit ? Il s'agit de subir la peine de mort à la place de l'humanité entière. Ils sont à côté de leur pompe, là. Souffrir et mourir. Et pourtant, Jésus reprend, effectivement, vous allez boire cette coupe. Et vous allez être baptisés du même baptême. Et effectivement, plus tard, quand ils auront compris beaucoup plus de choses sur Jésus, plus tard, ils s'engageront pour Jésus et... Acte 12, verset 2 nous rapporte que Jacques a été tué par l'épée, par le roi Hérode ou par les partisans du roi Hérode. Et vous savez que Jean a été exilé sur l'île de Patmos parce qu'il avait annoncé l'évangile de Jésus-Christ, il avait annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc Jacques et Jean qui ont compris, qui ont bu cette coupe et qui ont été baptisés du même baptême, mais un peu plus tard. Mais pour le moment, il faut reconnaître que ce ne sont que des fanfarons qui ne savent pas ce qu'ils disent. Et les autres disciples, est-ce qu'ils sont meilleurs, les autres disciples ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Les autres disciples, ils s'indignent contre Jacques et Jean. Mais moi, j'aurais envie de dire que les autres disciples, ils se drapent dans leur indignité. Vous savez, quand on rate quelque chose, quand les autres sont meilleurs que nous, vont plus vite que nous et nous passent devant, on a une possibilité pour ne pas perdre la face, c'est de dire non mais je ne suis pas comme eux. Je ne suis pas comme ces requins qui ont voulu la première place. On a perdu au jeu du plus rapide, on a perdu au jeu du plus audacieux. Alors, on sort du jeu et on critique ceux qui ont gagné. Ça, c'est quelque chose de très classique dans l'humanité. C'est une façon de se valoriser, d'être vu alors qu'on a échoué. Regarde Jésus, nous les 10 autres, nous ne sommes pas comme Jacques et Jean. Et il y a un exemple mémorable aux Jeux Olympiques de Rio. Camille Lacour, champion du monde et champion de France et d'Europe du je ne sais plus quelle nage. Il a perdu, il a terminé 5e. Et plutôt que de reconnaître sa défaite et de dire humblement, écoutez, ben, les autres ont été meilleurs que moi, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est drapé dans sa dignité, il a dit. Je suis le seul à ne pas être dopé sur cette course. Et écoutez, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est lui qui le dit, citation véridique. Hein. En parlant du Chinois qui avait gagné, il a dit, je ne suis pas content que ce soit un Chinois qui ait gagné, racisme. Et il a conclu en disant, il pisse violet. Il est dopé. Il s'est drapé dans son indignité, Camille Lacour, ce jour-là. Mais c'était minable, plutôt que juste de reconnaître qu'il avait été moins bon que les autres ce jour-là. Mauvaise foi. Français, champion du monde, de la mauvaise foi. Exactement comme les disciples ici. On n'a rien inventé, les disciples sont passés par là avant nous. Ils s'indignent et font semblant d'être meilleurs que Jacques et Jean. Mais en fait, ils sont juste dégoûtés d'avoir été doublés par eux. Heureusement, Jésus, là, il met un point final au ridicule de cette scène et il enseigne un projet radicalement différent. Et là, je pense que ça cloue le bec à tout le monde, à tous ses disciples. Je vous relis les versets 42 à 45. Vous savez ce qui se passe dans les nations? Ceux que l'on considère comme les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et Jésus, là, il renverse toutes les luttes de pouvoir auxquelles on a l'habitude d'assister. Il nous prend complètement à contre-pied. Tu veux être grand? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de honte à ça, nous dit Jésus. Mais la voie que je t'enseigne n'est pas la voie du monde. Si tu veux être grand, deviens un serviteur, deviens l'esclave de tous. Et là, on entre dans le paradoxe. Pour être grand, il faut être petit. J'ai envie de dire que le constat de nos vies est sans appel. C'est vrai qu'on a tous une soif de domination, une soif de réussite, d'être le premier, d'être le meilleur. On veut tous se faire notre petite place au soleil, comme on dit. Il suffit de voir comment on passe notre temps à se comparer aux autres ou à comparer la réussite de nos enfants avec la réussite des enfants des autres. Et si on perd à la comparaison, eh bien, on essaye de se rassurer en pensant qu'on est une meilleure personne que l'autre. Et ça fait de nous des esclaves, il faut être honnête. Des esclaves du désir de domination et du désir de réussite. Alors, est-ce que c'est possible d'être délivré de ce piège de la performance, de ce piège du désir de la réussite? Est-ce que c'est possible? Et je pose aussi la question au groupe de jeunes, parce que la dernière fois qu'on est allé faire un Laserland en juin, eh bien, il y a eu des magouilles dans le Laserland. Il y a eu constitution de groupes, d'amitié, pour pouvoir tirer sur les autres plus facilement quand ils arrivaient. Et j'en vois certains qui n'étaient pas les derniers pour se constituer un groupe là-bas. Peut-on être délivré du piège de la performance même quand on va à Laserland? On veut gagner à tout prix. Si vous ne me croyez pas, je voulais la rapporter, mais j'ai oublié, elle est dans mon bureau fermée à clé. J'ai la feuille, on était une vingtaine, et on a été classés en fonction du nombre de points qu'on a récoltés. J'ai la preuve de la soif de victoire de certains à Laserland. Est-ce que c'est possible d'être délivré du piège de la performance, du piège de la réussite et de la domination sur les autres? Eh bien oui, c'est possible, mais il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut nous en libérer. Il n'y a que Jésus qui puisse vraiment accomplir ce miracle dans nos vies. Comment il s'y est pris pour accomplir ce miracle dans nos vies? Eh bien, ce que Jésus veut faire pour toi, il veut te racheter d'abord. Il veut te racheter de tout ça, de ce piège de la performance dans lequel tu es tombé, dans lequel je suis tombé. Il a donné sa vie en rançon pour beaucoup, nous dit le récit aujourd'hui. Il a payé le prix que notre liberté réclamait. Quelqu'un qui se fait choper à tricher au bac ou qui se fait prendre en fraude par les impôts, il risque gros aujourd'hui. Eh bien, la Bible nous dit que ceux qui vivent comme nous, des pécheurs avides de performance et de réussite, eh bien, la Bible nous dit qu'on risque beaucoup plus que ceux qui trichent au bac et aux impôts. Le salaire du péché, c'est la mort, nous dit la Bible. La séparation éternelle avec Dieu. Et ça, rien de cool. Voici l'annonce de la libération. Jésus veut te racheter, il veut me racheter. Il nous libère pour qu'on ne soit plus esclaves de l'ambition. Et comment est-ce qu'il a fait Jésus? Ben, il a pris notre place. Pris notre place, c'est ce qu'il avait essayé d'annoncer à ses disciples, mais qui s'était fermé par écoute sélective, qui avait arrêté d'écouter dès qu'ils avaient entendu parler du Fils de l'homme. Mais Jésus l'avait bien annoncé. Nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme va y être livré aux mains des prêtres et des non-juifs ensuite, pour être fouetté, moqué, mis à mort, souffrir. Et cette mort de Jésus, eh bien, elle n'était pas un hasard. Elle était prévue de longue date. On en a pour preuve que les mots que Jésus même utilise ici pour décrire sa mort sont les mots du prophète Ésaïe, 700 ans avant sa mort. Dieu est aux commandes lorsqu'il rachète nos existences. Ce n'est pas un hasard de l'histoire. Jésus-Christ a donné sa vie volontairement pour nous. Jésus nous délivre aussi ce qu'il veut faire pour toi. Il veut nous délivrer du piège de la performance en nous donnant son exemple, un exemple de service. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Lui qui est Dieu le Fils, qui connaît la gloire de Dieu le Père depuis l'éternité, eh bien, il s'est abaissé, il s'est humilié pour nous servir. Il est devenu un homme pour nous servir. Exemple suprême de service. Et comment faire pour arriver? Comment faire pour arriver à servir comme Jésus? Eh bien, là aussi, il faut un miracle pour servir comme Jésus. Vous allez voir comment le récit d'aujourd'hui nous parle, met le doigt sur le miracle. Vous vous souvenez quand Jacques et Jean, les fanfarons, disaient « Oui, nous pouvons boire ». Jésus posait une question qui est rhétorique. Hein. Pouvez-vous boire la coupe? Pouvez-vous être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? C'est une question qui s'appelle, c'est une question rhétorique. On attend une réponse négative à cette question. Et pourtant, Jésus après, il dit « En effet, vous allez boire et vous allez être baptisé ». Comment c'est possible? Comment Jésus qui pose une question en attendant la réponse non passe tout d'un coup à un oui, vous allez pouvoir le faire? Mais parce qu'on a avec Jésus le Dieu de tous les possibles, le Dieu qui rend possible les choses qui ne le sont pas. Et effectivement, Jacques et Jean, des fanfarons pros de la magouille ici dans ce récit, vont devenir plus tard les disciples modèles que l'on connaît. Au point que Jacques mourra par l'épée sous Hérode, je l'ai dit tout à l'heure, et que Jean ira au bout de ce qu'il peut dans le témoignage, au point qu'il sera condamné à l'exil forcé. Qu'est-ce qui fait que Jacques et Jean ont tellement changé, si ce n'est que Dieu les a transformés? On a le Dieu de tous les possibles qui transforme nos vies. Et c'est ça aussi que Dieu veut faire avec ta vie. Il veut te transformer. Quelques mots de conclusion. Qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse pour toi? Telle est la question du jour, posée par Jésus lui-même. Est-ce que tu veux continuer à être esclave de tes désirs? Continuer à être esclave de tes ambitions? Ou est-ce que tu veux en être délivré? Car il y a cette possibilité-là. Jésus a offert sa vie à ta place, sur la croix. Il t'a racheté pour que tu mènes une vie de service. On termine aujourd'hui notre série dans l'évangile de Marc qu'on avait commencé en septembre, il y a un an. On va s'arrêter là. On laisse Jésus aux portes de Jérusalem, une semaine avant sa mort. La suite du récit, là on est à la fin du chapitre 10, au début du chapitre 11, il entre triomphalement dans Jérusalem le jour des rameaux, une semaine avant sa mort. On termine par la même occasion ce long passage dans l'évangile de Marc où Jésus a enseigné à ses disciples. Il les a formés. Il leur a parlé d'argent, de sexe et aujourd'hui de pouvoir. Ne le nions pas, ce sont nos désirs à nous aussi. Rien n'a changé depuis 2000 ans. Mais Jésus a montré à chaque fois un autre chemin. Un meilleur chemin, un chemin vers le bien, un chemin vers la transformation, un chemin vers la liberté. Et ce chemin, à chaque fois, c'est celui du service humble. Accepter humblement que nous avons besoin de Jésus, qu'il nous rachète. Nous avons besoin qu'il nous transforme et nous avons besoin de suivre son exemple. Amen.